בלי לחכות, נו לא בא לי לחכות. זמן לא עובר, אני סופר נשימות. עד הפעם הבאה שתבואי.
רדיו G.
Le 6-9.
Nicolas Raffal.
Rדיו G.
Bonjour à toutes et à tous, il est 6h, nous sommes le dimanche 19 mai 2024, ravis de vous accompagner jusqu'à 8h45 pour ce morning, cette matinale du dimanche. Bonjour Eva Soto.
Bonjour Nicolas Raffal.
Alan Lucas est également avec nous en pleine forme du côté de la réalisation. On va décortiquer ensemble eh bien, tout au long de cette matinée l'actualité du dimanche et de la semaine également. On va revenir avec ce qui s'était produit vendredi, notamment du côté de Rouen et de la synagogue de Rouen. On fera un point sur la communauté juive de Rouen ce matin. Et puis dans quelques instants, nous serons avec Julie Arfi du collectif Nous Vivrons. Ce sera à 6h07, juste après le journal. Elle a des choses à nous dire. Voilà, vous retrouverez vos chroniqueurs et journalistes habituels pour vous accompagner afin de décrypter toute l'actualité de cette fin de semaine. Ravi de vous accueillir. Tout de suite, c'est le journal présenté par Eva Soto. De l'actualité, le 226e jour de guerre contre le Hamas et l'annonce ce matin, Eva, de la mort de deux soldats israéliens.
Les sergents Nachman Meir Chaim Vaknin, 20 ans, d'Elat, et Noam Bitan, 20 ans, de Yad Rambam. Ils sont tombés au combat hier dans le sud de la bande de Gaza à Rafah. Deux autres soldats et un officier de l'unité de reconnaissance Givati ont également été grièvement blessés. En cause, l'explosion dans un puits de tunnel piégé. Depuis le début des opérations terrestres lancées par Israël contre le Hamas, 282 soldats ont été tués.
Quatre corps d'otages récupérés dans la bande de Gaza vendredi dans une opération spéciale de l'armée et du Shin Bet.
Et l'identité du quatrième otage récupéré a été révélée hier par Tsahal. Il s'agit de Ron Benjamin, 53 ans, enlevé par le Hamas au matin du 7 octobre près de Melfassim. Les terroristes du Hamas ont emmené son corps dans la bande de Gaza. Un corps retrouvé aux côtés de ceux de Shani Luk, de Yitzhak Gellerender et de Hamid Bouskila, qui eux étaient jusqu'à présent considérés comme vivants. Le porte-parole de Tsahal, Daniel Hagari.
Yitzhak, Shani et Hamid étaient à la fête de Nova et ils se sont enfuis vers la zone de Mefalsim. Selon les renseignements vérifiés que nous avons, ils ont été assassinés brutalement par les terroristes du Hamas et leurs cadavres ont été enlevés vers la bande de Gaza.
Le porte-parole de Tsahal, Daniel Hagari, traduit Paris 24 News. De nouveaux rassemblements d'opposants au gouvernement Netanyahou et de familles de captifs ont eu lieu hier soir à Jérusalem et à Tel Aviv notamment. Les Israéliens se sont à nouveau mobilisés par milliers comme chaque semaine. Les participants appellent la communauté internationale à soutenir et œuvrer pour un accord sur la libération des 125 captifs encore retenus à Gaza.
Et sans plan de Benjamin Netanyahou pour l'après-guerre à Gaza avant le 8 juin, Benny Gantz quittera la coalition. C'est ce qu'il a annoncé hier soir dans une allocution très attendue.
Il souhaite la mise en place d'une administration palestinienne alternative au Hamas avec un soutien international et un accord sur les otages. Benny Gantz s'est même adressé directement à Benjamin Netanyahou hier soir. Il lui a demandé de ne pas choisir la voie des fanatiques. Plusieurs ministres fustigent la politique de Benny Gantz qu'ils considèrent comme de gauche. Il lui suggère même d'avancer son ultimatum et de partir immédiatement. Benny Gantz est entré comme ministre du cabinet de guerre juste après le 7 octobre.
À la frontière sud, les alertes à la roquette ont retenti pour la seconde fois hier dans la soirée.
Et des dizaines de terroristes ont été tués lors d'affrontements violents à Jabalia. L'armée israélienne a diffusé des images de drones qui montrent des parachutistes en train d'éliminer deux terroristes sur le toit d'un immeuble. La fusillade avait commencé à l'intérieur du bâtiment. Aucun soldat n'a été blessé lors de cette opération. Par ailleurs, Tsahal a aussi appelé les Palestiniens à évacuer une liste de nouvelles zones et les quartiers nord de Gaza. Ils doivent se déplacer vers des abris établis à l'ouest.
À la frontière nord, face au Hezbollah, des avions de combat ont frappé des bâtiments du Hezbollah au Liban.
Un drone chargé d'explosifs a touché une zone proche de la communauté frontalière de Iftar en Israël. Plusieurs roquettes ont également été tirées hier depuis le Liban vers le nord d'Israël. Le Hezbollah a revendiqué 10 attaques de ce type pour la seule journée d'hier, attaques qui n'ont pas fait de blessés.
En France, le ministre de l'Intérieur sera demain à Rouen pour décorer le policier qui a tiré sur l'auteur de l'attaque antisémite de la synagogue.
Synagogue de Rouen qui a été incendiée avant-hier. Le terroriste a donc été tué alors qu'il fonçait sur les policiers arrivés sur place avec un couteau, un Algérien sous le coup d'une OQTF qui venait donc de mettre le feu au lieu de culte. Il était dangereux mais inconnu des services de renseignement. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin.
Moi, je voudrais le féliciter ici et lui dire qu'il sera décoré par la République pour son soutien à la protection des lieux de culte et des personnes. Il a fait usage de son arme administrative et je veux dire qu'il a eu raison de le faire parce que lorsque des policiers ou des gendarmes sont menacés de mort par des gens extrêmement dangereux, quand ils menacent la République, quand ils menacent les Juifs de France, quand ils menacent les femmes et les hommes qui habitent en France, les policiers et les gendarmes ont raison, d'après la loi, le code de déontologie de la police nationale, d'utiliser leurs armes et de ne pas hésiter à se protéger eux-mêmes et à protéger les autres.
Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, à propos du policier qui a donc tiré sur le terroriste avant-hier.
Une liste Free Palestine officiellement candidate aux européennes, c'est le leader d'un petit parti islamique, l'Union des démocrates musulmans de France.
Oui, qui a décidé de le créer. Son logo prône la disparition d'Israël et son programme appelle à cesser de considérer le Hamas comme terroriste. Son leader dit s'être allié avec des partis qui partagent des valeurs dans d'autres pays européens. Selon Najib Azerghi, il s'agit de faire entendre la voix des Palestiniens et de lutter contre la contamination des idées d'extrême droite qui visent les citoyens musulmans. En 2019, ce même parti avait péniblement atteint les 0,13% des suffrages. Désormais, l'IFOP le crédite de 0,5% des voix.
Merci Eva pour ce journal. Il y aura un rappel des titres à 6h15. Juste un petit focus sur la météo. Il nuage aujourd'hui à Paris, prédominant, mais il va faire quand même assez bon et 19 degrés dans l'ensemble de la journée. Il fait 11 actuellement. Et s'il y a une chose, voilà, qui va bien quand même en Israël, c'est la température du jour, quoi. C'est peut-être la seule chose qui va bien aujourd'hui. Eh ben oui, il fera 29 degrés à Tel Aviv et 30 à Jérusalem.
Ah ouais, c'est bien.
Hein, c'est pas mal.
Ouais.
Hein, voilà. La météo. Tout de suite, on retrouve Julie Arfi.
Le 6-9.
Nicolas Raffal.
Elle est présente avec nous en studio, Julie Arfi du collectif Nous Vivrons, Eva.
Julie Arfi, bonjour.
Bonjour.
Semaine chargée, c'est le moins qu'on puisse dire. Après la profanation du mur des Justes au mémorial de la Shoah à Paris, vous avez organisé devant une manifestation. Manifestation aussi vendredi, cette fois-ci à l'appel de l'Union des étudiants juifs de France, place de la République à Paris, suite à l'incendie contre la synagogue de Rouen. Ces actes antisémites non seulement augmentent, mais là on l'a vu cette semaine, leur rythme s'accélère alors qu'ils sont unanimement condamnés. Comment vous l'expliquez ?
J'explique ces actes qui sont maintenant quasiment quotidiens par une libération complète de la parole antisémite qui ne se cache plus et c'est plus un problème aujourd'hui d'appeler au soulèvement, de sous-entendre un certain nombre de choses antisémites, voire de les dire de façon très claire. On a évidemment été extrêmement choqués par les symboles que représentent ces deux actes dont vous venez de parler, Eva. L'un qui, de façon extrêmement clair, s'attaque à la mémoire de la France, à l'honneur de la
celui
France.
Celui du mur des Justes au mémorial
absolument,
de la Shoah.
Absolument. Et puis le second, qui s'attaque de façon extrêmement frontale à la communauté juive, au judaïsme. Brûler une synagogue, c'est évidemment un acte inacceptable.
L'incendie de la synagogue de Rouen, vendredi, a été condamné par Jean-Luc Mélenchon, le leader de LFI, en ces mots. La synagogue de Rouen, après la mosquée de Cherbourg, est agressée. En France, la liberté de conscience a gagné à partir de la lutte pour la liberté de culte. Il faut cesser toutes les stigmatisations religieuses. Seule une république vraiment laïque peut garantir la liberté de foi des juifs, des musulmans et des chrétiens. Votre réaction ?
C'est toujours très compliqué lorsqu'il y a un acte antisémite de rappeler d'autres actes. En fait, je considère qu'on peut isolément condamner chacun des actes qui sont chacun inacceptables. Faire des parallèles entre les actes, c'est fait à dessein, évidemment. Jean-Luc Mélenchon a quand même beaucoup de difficultés à adresser le problème de l'antisémitisme en France. Donc, je préfère qu'il l'ait condamné, mais j'aurais préféré qu'il le condamne de façon claire et isolée. Chaque acte doit être isolément condamné.
Vous avez aussi annoncé votre collectif, votre intention de porter plainte contre le député LFiste Thomas Porte. Pourquoi ?
Il n'a de cesse, d'ailleurs, comme ses collègues de la France Insoumise, de sous-entendre, de dire très clairement que nous serions d'extrême droite, que nous sommes les bras armés en France du gouvernement israélien. Ça suffit, en fait. On arrête. Dès que les Juifs ouvrent la bouche en France pour dénoncer les actes dont ils sont l'objet, de les attaquer d'extrême droite. Nous ne sommes pas des fascistes, nous ne sommes pas d'extrême droite. Dès que les Juifs en France dénoncent les actes dont ils sont victimes, on nous taxe de victimisation. Dès qu'ils sortent dans la rue pour manifester, on nous dit qu'on est d'extrême droite. C'est inacceptable. Je crois qu'aujourd'hui, il faut mettre un terme à cette parole qui non seulement est diffamatoire, mais qui en plus appelle à la haine. Et on le voit, c'est cette parole-là dont je parlais tout à l'heure qui libère le passage à l'acte. Et jusqu'à quand ? On ne peut plus laisser faire ça.
L'essayiste Ilana Weissman a écrit un ouvrage où elle parle de l'antisémitisme comme l'angle mort de la lutte antiraciste dans les milieux militants qui sont justement censés partager cette défense des minorités. Vous partagez ce constat ?
Aujourd'hui, la communauté juive, c'est 0,1% de la communauté française, de la population française. C'est quand même une des seules minorités à laquelle on conteste le droit de dénoncer ce dont elle est victime. À l'heure du « on vous croit », la communauté juive n'a pas le droit de dire qu'elle est victime de quelque chose parce qu'on la taxe de victimisation, comme je disais. Je lis sur les réseaux sociaux que la communauté juive pleurniche en permanence. Je trouve que c'est absolument scandaleux. Je crois qu'effectivement, les associations antiracistes doivent se réemparer du sujet de l'antisémitisme. C'est la réalité, c'est que c'est aussi pour ça que Nous Vivrons s'est créé, en raison d'une espèce d'abandon du sujet de la lutte contre l'antisémitisme par les associations de lutte contre le racisme.
Les associations de lutte contre le racisme semblent, pour certaines d'entre elles, ne pas comprendre ce qu'est l'antisémitisme ou ne pas vouloir le comprendre. En revanche, on a vu ces derniers temps, à l'extrême droite, par exemple, on n'a pas hésité tout de suite à qualifier le Hamas de groupe terroriste, à dénoncer l'antisémitisme, alors que c'est pas le cas du côté de LFI. D'après vous, est-ce que l'extrême droite peut être vue aujourd'hui comme un rempart à l'antisémitisme, ou en tout cas, c'est vrai qu'on entend beaucoup de gens dire bah eux au moins maintenant ils disent que le Hamas est un groupe terroriste, ils dénoncent les actes antisémites, donc ils sont entre guillemets de notre côté.
C'est exact, ce sont des propos qui sont tenus. Moi je considère que il ne suffit pas à l'extrême droite de tenir des propos de soutien à Israël, de dénonciation de l'antisémitisme. Je crois que pour devenir véritablement un camp républicain, l'extrême droite doit faire aussi le ménage dans ses rangs, doit s'élever lorsqu'il y a des manifestations néo-nazis à Paris, doit aussi dénoncer tout ça. Je pense que ce n'est pas suffisant aujourd'hui. Nous ne sommes pas dupes en tout cas. Il est vrai que l'antisémitisme d'extrême gauche et d'extrême droite ne s'exprime plus de la même façon aujourd'hui, ne s'exprime pas avec la même temporalité, ne s'exprime pas sous les mêmes angles. Néanmoins, je crois qu'il faut impérativement ne pas être dupe du Rassemblement National aujourd'hui, qui n'a pas fait le ménage dans ses rangs et ne s'élève pas contre ce type de manifestation. Et je pense que c'est ça qui ferait aussi qu'il serait crédible. Aujourd'hui, je ne veux pas que la communauté juive soit le crédit donné au Rassemblement National pour les réintroduire dans le champ républicain. Ne soyons pas dupes, c'est à mon sens très important.
Julie Arfi, on assiste, notamment depuis le 7 octobre, à une mise en concurrence victimaire par rapport aux actes antisémites. Malheureusement, on l'a vu, hein, pour la marche contre l'antisémitisme où le recteur de la Grande Mosquée de Paris n'a pas voulu y participer parce qu'il ne s'agissait que d'antisémitisme et pas d'actes anti-musulmans. C'est une mécanique diabolique qui s'est mise en place depuis le 7 octobre. Est-ce qu'il y a aujourd'hui aussi un moyen de la rompre, de rompre cette tension qui se joue par le jeu des actes racistes et antisémites entre juifs et musulmans et qu'on est obligé de constater ?
Je crois que le rempart à cela, c'est que ceux qui se disent véritablement antiracistes, qui se disent véritablement lutter contre l'antisémitisme, eh bien l'expriment, se joignent notamment, puisqu'on parle d'antisémitisme, à la communauté juive lorsqu'elle est victime, comme cette semaine, de tous les actes dont on a parlé. Il ne suffit pas, encore une fois, de dire qu'on lutte contre l'antisémitisme, il faut l'exprimer, il faut se joindre.
Merci beaucoup Julie Arfi. Donc vous êtes membre de l'organisation Nous Vivrons. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Radio J.
Merci.
Radio J, le 6-9.
Nicolas Raffal. Radio J.
6h16, bienvenue sur Radio J si vous nous rejoignez. Nous sommes peut-être 0,1% de la population, mais 100% de la bonne information et du rappel des titres vous est donné par Eva Soto. Bonjour Eva.
Bonjour, à la une de l'actualité, le 226e jour de guerre contre le Hamas et l'annonce ce matin de la mort de deux nouveaux soldats israéliens, les sergents Nachman Meir Chaim Waknin, 20 ans, d'Elat, et Noam Bitan, 20 ans, de Yad Rambam. Quatre corps d'otages récupérés dans la bande de Gaza vendredi dans une opération spéciale de l'armée du Shin Bet. L'identité du quatrième a été révélée hier par Tsahal. Il s'agit de Ron Benjamin, 53 ans, enlevé par le Hamas au matin du 7 octobre près de Melfassim. Les terroristes ont emmené son corps dans la bande de Gaza. Sans plan de Benjamin Netanyahou pour l'après-guerre à Gaza avant le 8 juin, Benny Gantz quittera la coalition. C'est ce qu'il a annoncé hier soir dans une allocution très attendue. À la frontière sud, les alertes à la roquette ont retenti pour la seconde fois hier dans la soirée. Dans le nord, face au Hezbollah, des avions de combat ont frappé des bâtiments du groupe terroriste au Liban. Et puis en France, le ministre de l'Intérieur sera demain à Rouen pour décorer le policier qui a tiré sur l'auteur de l'attaque antisémite de la synagogue de Rouen. Donc.
Merci Eva pour ce rappel des titres. Je ne sais pas ce que j'attendais, mais c'était très bien. Chirim sur Radio J, un petit peu de chanson pour se détendre. Moïse Klein, Tarzor Habaita. Vous savez quelle date de naissance ? Moïse Klein, 7 octobre 1994. On l'écoute.
לא תמיד הייתה ברירה, הדרך לא תמיד ברורה, שאלות קשות באמצע קרב. שדה קוצים מלא באור, שקיעה רועדת גוון אפור, מלחמות בסוף ומחשב. תחזור הביתה אל הלב שמכוון, יש ילדים שמחכים שתנגב את הדמעות. להילחם על משמעות, להילחם על כוונות. תחזור הביתה, תחזור הביתה. ערפל כיסה הכל, אוויר מלא כאב וחול, מבקשים בשקט נחמה. הבית ריק רק שועלים, עת חוזר מהערים, מתי תשוב אלינו לביתך? תחזור הביתה, אל הלב שמכוון, יש ילדים שמחכים שתנגב את הדמעות. תחזור הביתה, מתחבר, להילחם על משמעות, להילחם על כוונות.
Rafal.
Tout de suite, on parle d'histoire sur Radio J. Vladimir Fedorovski au micro d'Eva Soto nous raconte l'histoire de Mikhail Mihoustin.
Vladimir. Et nous sommes dimanche, comme chaque dimanche sur Radio J, notre rendez-vous avec Vladimir Fedorovski pour l'histoire de la Russie et de l'URSS. Vladimir Fedorovski, écrivain et ancien diplomate russo-ukrainien. Votre dernier livre est paru aux éditions Ballant, auquel vous êtes fidèle. Napoléon face à la Russie. Alors, cette semaine, un personnage dont la fonction est énigmatique dans la Russie de Vladimir Poutine, hein, parce qu'il est Premier ministre. Non mais quand on lit ce nom Mikhail Mishustin, on se dit ah bon, c'est le Premier ministre de la Russie, mais comment?
Personne le connaît.
Personne le connaît. Comment ça se fait?
Vous savez, il y a quelqu'un, un président français. Il a parlé de son entourage que de ses collaborateurs. Et je pense que Poutine, il utilise beaucoup ses collaborateurs. Si on veut être quelqu'un d'indépendant d'esprit, vous n'avez pas beaucoup de chance de réussir votre carrière autour de ça. L'apparition de Mishustin, vous avez parlé de personnage énigmatique, il est personnage énigmatique. Vous savez, l'apparition de Poutine est liée avec les rapports très bizarres que Poutine a entretenus avec un autre collaborateur que vous connaissez cette fois-ci, c'est Medvedev. Il était président, vous savez, de la Russie pendant le laps de temps, c'était vraiment, dans la réalité, je les ai connus d'ailleurs, Poutine et Medvedev. Mishustin, je n'ai pas connu, mais Medvedev, je connu. En fait, c'était le secrétaire de Poutine. Après, j'étais chef de cabinet de Poutine. À un moment donné, la Constitution ne permettait pas tout de suite de reprendre ça. Et Poutine, il a décidé de déléguer à quelqu'un. Il a la confiance totale à son collaborateur, Medvedev, toutes ces choses-là.
Mishustin, c'est le Medvedev actuel?
Ah, il est beaucoup plus subtil que Medvedev actuel, puisque Medvedev, il s'est pris à un moment donné pour une sorte de disons visage libéral, pro-occidental, oui, de l'entourage, de l'entourage de Poutine. Les gens pensaient de ça.
Au début,
on a dit ah non, mais les Américains, par exemple, quand ils sont venus en 2011, je crois, ils ont dit non, Poutine, ça vaut pas la peine, mais Medvedev, ok, il n'y a pas de problème, on peut s'arranger avec lui. D'ailleurs, la preuve que pendant deux ou trois affaires, il était tout à fait dans la tendance libérale. Vous vous souvenez de l'intervention qui s'est terminée malheureusement très mal, l'intervention occidentale et française, notamment en Libye, parce qu'on a pensé qu'on va faire la démocratie en Libye. Maintenant, il n'y a plus de Libye. Alors, c'est très simple, mais je dois vous dire que Medvedev, il a soutenu la position occidentale. Il n'a pas voté contre la résolution des Nations Unies qui a donné le feu vert au début de cette intervention humanitaire. Ça, c'est le premier point. Et je pense que d'ailleurs, cette intervention de la Libye, ça lui a coûté très cher. Alors, parce qu'il y avait une polémique directe entre Poutine qui a dit qu'il est trop pro-occidental. Ça ne vaut pas la peine. Et Mishustin, il a dit maintenant, ça suffit. Medvedev, il sera viré. Je le placerai au Conseil de sécurité. D'ailleurs, Medvedev, aujourd'hui, vous savez, il est devenu encore, dans les paroles, une sorte de porte-parole des anti-occidentaux, avec exubérance que de ces tweets. Et je vais prendre un profil de quelqu'un qui sera encore plus jeune. Tous les personnages dont on a parlé, ils ont un défaut. C'est un défaut, c'est l'âge, pour vous dire la vérité. Parce que vous savez, Poutine, il est en forme, il a toujours avec sa copine, il fait toujours.
En tout cas, c'est l'image qu'il donne.
C'est l'image qu'il donne, etc. Mais je dois vous dire que, quand même, l'âge est là. Et tous les personnages, j'ai bien connu, je dois vous dire, Lavrov, c'est au bout de force. Il aurait vraiment. Shoigu, c'est toujours, c'est début des années 50. Moi, Orlov est pardon.
Lavrov.
Mishustin, c'est 1966. Il a 10 ans, 16 ans de différence. Ça, c'est un point. Il est un peu qu'il peut nous donner cette filiation dont on a parlé la semaine dernière. Je dois vous dire, cette filiation de gestionnaire, quelqu'un qui a réussi. Mishustin, qui est, il a des, aussi, c'est comme souvent les personnages dont on a parlé, vous savez, c'est les personnages, ils ne sont pas d'origine souvent russe pure. C'est souvent les mélanges. Par exemple, Shoigu, c'est un mélange avec les gens de l'Altaï. Lavrov, c'est, il y a du sang arménien. Mishustin, il a du sang arménien et du sang juif. Ça, c'est pour qu'on vous donne l'indication. Un mélange jeune. Et deuxième chose, sur ce plan-là, il a fait ses preuves comme quelqu'un qui est extraordinairement performant comme gestionnaire. Il a dirigé le service...
En fait, le premier ministre de Vladimir Poutine, c'est un technocrate, c'est ce que vous
c'est
êtes...
C'est un technocrate, c'est... mais je dois vous dire, un technocrate qui a quand même constitué son propre équipe. C'est la seule fois dans l'histoire de la Russie quand il a eu la carte blanche de la part de Poutine.
Déjà, il l'a obtenu,
Déjà, il a obtenu la carte blanche. Il a pris avec lui, la majorité des gens qui travaillent là-bas. Il a fait une performance extraordinaire. Il a créé le meilleur service des impôts du monde. Très simple, basé sur l'intelligence artificielle, sur l'Internet, etc. Il a réussi ça parfaitement. Et finalement, Poutine l'a pris comme ça, dans le moment. Deuxième point.
Medvedev, parce qu'on parlait tout à l'heure de Medvedev, et c'est intéressant parce que vous êtes passé de Mishustin à Medvedev. Est-ce que Mishustin, à un moment, on a cru que ce serait Medvedev qui pourrait succéder à Vladimir Poutine? On voit là que c'est pas le cas. Est-ce que Mishustin, qu'on ne connaît pas encore, enfin qu'on connaîtra un peu mieux grâce à Radio J et surtout grâce à vous, Vladimir, est-ce que Mishustin pourrait succéder à Vladimir Poutine?
Vous savez, j'ai tellement écrit sur la succession de Kremlin et j'ai participé, en tout cas, à la succession, au complot de Gorbatchev directement. Je tiens à vous dire la vérité. C'est absolument imprévisible. Simplement, nous pouvons analyser avec vous dans ces émissions les facteurs qui sont là. Nous avons dit qu'il y a le facteur de FSB, des services secrets qui ont le vent en poupe. Il y a le facteur armé, surtout s'ils réussissent leur coup en Ukraine, ils vont prendre le dessus, etc. Il y a les facteurs économiques très importants pour moi. Pourquoi? Parce que vous savez, Poutine, tout en changeant maintenant l'équipe et changeant la filiation, il est assez paradoxal pour vous dire. Parce que une grande réussite de Mishustin, je vais vous dire laquelle la grande réussite. On pense souvent qu'il a utilisé l'internet, qu'il a utilisé l'intelligence artificielle quand il est devenu premier ministre. Pas du tout. Sa grande réussite, c'est la transformation de l'économie de la Russie en économie de guerre. Vous comprenez? Il a su réutiliser...
Ça, c'est un point marquant aujourd'hui, parce que vous le soulignez tout
absolument
à l'heure. L'économie de guerre, en général, ça fait marcher l'économie. Et
ça, c'était étonnant. Parce que c'est nos erreurs. Je vous dire, je parle souvent avec les grands économistes américains, etc. Ils n'ont jamais prévu ça. Ils ont dit les Russes sont nuls, la Russie est foutue. Mais... ils n'ont pas réussi. Ils ont réussi très vite ça. Et ça, c'est un truc qui est dû.
Ils ont peut-être sous-estimé la force d'une économie de guerre qui, en général, l'économie de guerre, elle fait marcher économiquement un
évidemment,
pays.
Évidemment.
Ils ont sous-estimé
ils
ça.
Ils ont complètement sous-estimé ça. Ça, c'est la vérité. Mais vous savez, je vais vous dire.
Ce que je
vais vous donner juste deux chiffres que les gens comprennent. Par exemple, la France, elle produit maintenant 45, ministre de la Défense, Le Cornu, il dit 45, elle va produire dans deux ans, dans la réalité, 45 000 des obus qui sont nécessaires maintenant pour la guerre. Les Russes, avec Mishustin, cette année, ils produisent 2,7 millions. La même chose avec les chars, etc. Et ça, c'est dans la réalité. Ce qui détermine maintenant les choses, d'où vient l'inquiétude du président Macron, d'ailleurs, quand il a parlé de nécessité d'envoyer les troupes là-bas, c'est ce que l'économie de guerre est devenue très performante. Et ça, c'est dû à la gestion de Mishustin.
De cet homme qu'on ne connaissait pas jusqu'à aujourd'hui. Grâce à vous, Vladimir Fedorovski, donc on a fait la connaissance du premier ministre russe, Mikhail Mishustin. On se retrouve la semaine prochaine.
Radio J, le 6-9.
Nicolas Raffal.
6h30, bienvenue sur Radio J. Si vous nous rejoignez tout de suite, eh bien, c'est le journal de 6h30, présenté par Eva Soto. Bonjour Eva.
Bonjour Nicolas, bonjour à toutes et à tous.
Et à la une de l'actualité, le 226e jour de guerre contre le Hamas et l'annonce ce matin de la mort de deux soldats israéliens.
Les sergents Nachman Meir Haim Waknin, 20 ans, d'Elat, et Noam Bitan, 20 ans, de Yad Rambam. Ils sont tombés au combat hier dans le sud de la bande de Gaza. Deux autres soldats et un officier de l'unité de reconnaissance Givati ont aussi été grièvement blessés en cause l'explosion dans un puits de tunnel piégé dans le secteur de Rafah. Depuis le début des opérations terrestres lancées contre le Hamas, 282 soldats israéliens ont été tués.
Et quatre corps d'otages récupérés dans la bande de Gaza vendredi dans une opération spéciale de l'armée et du Shin Bet.
L'identité du quatrième a été révélée hier par Tsahal. Il s'agit de Ron Benjamin, 53 ans, enlevé par le Hamas au matin du 7 octobre près de Melfassim et tué dans la foulée. Les terroristes du Hamas ont ensuite emmené son corps dans la bande de Gaza. Il a été retrouvé aux côtés des corps de Shani Luk, de Yitzhak Gelen Renter et d'Amit Bouskila, qui, eux deux, étaient considérés comme vivants jusqu'à présent. Le porte-parole de Tsahal, Daniel Agari.
Yitzhak, Shani et Amit étaient à la fête de Nova et ils se sont enfuis vers la zone de Mefalsim. Selon des renseignements vérifiés que nous avons, ils ont été assassinés brutalement par les terroristes du Hamas et leurs cadavres ont été enlevés vers la bande de Gaza.
Le porte-parole de Tsahal, Daniel Agari, traduit Paris 24 News. De nouveaux rassemblements d'opposants au gouvernement Netanyahou et de familles de captifs ont eu lieu, notamment à Jérusalem et à Tel Aviv. Hier soir, les Israéliens se sont à nouveau mobilisés par milliers. Les participants appellent la communauté internationale à soutenir et à œuvrer sur un accord pour la libération des 125 captifs encore retenus à Gaza par des groupes terroristes.
Et sans plan de Benjamin Netanyahou pour l'après-guerre à Gaza avant le 8 juin, Benny Gantz quittera la coalition. C'est ce qu'il a annoncé hier soir dans une allocution très attendue.
Il souhaite entre autres la mise en place d'une administration palestinienne alternative au Hamas avec un soutien international et un accord sur les otages. Il s'est même directement adressé à Benjamin Netanyahou hier soir. Il lui demande de ne pas choisir la voie des fanatiques, ce sont ses propres termes. Plusieurs ministres fustigent sa politique qu'il considère comme de gauche. Il suggère même à Benny Gantz d'avancer son ultimatum et de partir immédiatement. Benny Gantz qui est entré comme ministre du cabinet de guerre après le 7 octobre.
À la frontière sud, les alertes à la roquette ont retenti pour la seconde fois hier dans la soirée.
Et des dizaines de terroristes ont été tués lors d'affrontements violents à Jabalia. L'armée israélienne a diffusé les images de drones qui montrent des parachutistes en train d'éliminer deux terroristes sur le toit d'un immeuble. Aucun soldat n'a été blessé. Par ailleurs, Tsahal a aussi appelé les Palestiniens à évacuer une nouvelle liste de zones des quartiers nord de Gaza. Ils doivent se déplacer vers des abris établis à l'ouest.
Et à la frontière nord, face au Hezbollah, des avions de combat ont frappé des bâtiments au Liban.
Un drone chargé d'explosifs a touché une zone proche de la communauté frontalière de Iftar en Israël. Plusieurs roquettes ont également été tirées hier depuis le Liban par le Hezbollah vers le nord d'Israël. Le Hezbollah en a même revendiqué 10 des attaques de ce type pour la seule journée d'hier, attaques qui n'ont pas fait de blessés.
En France, le ministre de l'Intérieur sera demain à Rouen pour décorer le policier qui a tiré sur l'auteur de l'attaque antisémite de la synagogue.
Synagogue de Rouen qui a été incendiée avant-hier. Le terroriste a été tué alors qu'il fonçait sur les policiers arrivés sur place avec un couteau, un Algérien sous le coup d'une OQTF qui venait donc de mettre le feu au lieu de culte. Il était dangereux mais inconnu des services de renseignement. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin à propos du policier qui a tiré.
Moi je voudrais le féliciter ici et lui dire qu'il sera décoré par la République pour son soutien à la protection des lieux de culte et des personnes. Il a fait usage de son arme administrative et je veux dire qu'il a eu raison de le faire parce que lorsque des policiers ou des gendarmes sont menacés de mort par des gens extrêmement dangereux, quand ils menacent la République, quand ils menacent les Juifs de France, quand ils menacent les femmes et les hommes qui habitent en France, les policiers et les gendarmes ont raison, d'après la loi, le code de déontologie de la police nationale, d'utiliser leurs armes et de ne pas hésiter à se protéger eux-mêmes et à protéger les autres.
Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin.
Et une liste Free Palestine officiellement candidate aux européennes.
C'est le leader d'un petit parti islamique, l'Union des démocrates musulmans de France, qui l'a mise en place. Son logo prône la disparition d'Israël et son programme a cessé de considérer le Hamas comme terroriste. En 2019, ce petit parti avait péniblement atteint les 0,13% des suffrages. L'IFOP le crédite désormais de 0,5% des voix.
Eh bien, merci Eva Soto pour ce journal de 6h30, tout à fait réjouissant. Merci. Dvartora, la chronique du dimanche, le Rav Mevorar Zerbib est avec nous. Bonjour Rav.
Bonjour Nicolas, bonjour à toutes et à tous. Puisque nous nous rapprochons du jour de l'Agba Omer, du 33e jour du Omer, j'aimerais commencer à réfléchir avec vous sur ce jour. Le jour de la semaine où tombe l'Agba Omer est le même jour de la semaine où la fête de Pourim est passée. Et c'est très intéressant ce point parce que quand on a la fête de Pessah, les jours de la fête de Pessah, on sait que suivant un principe d'alphabet en miroir, c'est-à-dire que quand on va prendre la première lettre de l'alphabet, Aleph, qui vaut 1, et qu'on va considérer que ce jour-là, le premier jour de Pessah, Aleph, c'est le jour de la semaine où Tav, donc la lettre en miroir, la dernière lettre de l'alphabet, c'est le Tav, Tav qui est début de Tisha B'Av, le 9 Av. Et ça marche. Le jour de la semaine où tombe le premier jour de Pessah, c'est, on le sait, le jour de la semaine où tombera le jour de Tisha B'Av du 9 Av. Le Bet, donc deuxième jour de Pessah, va être en rapport avec l'avant-dernière lettre de l'alphabet, le Shin. Eh bien, le jour de la semaine où tombe le deuxième jour de Pessah, c'est le même jour de la semaine où va tomber la fête de Shavuot, Shin Shavuot. Et ça continue. Là, le troisième jour, le Gimel, le jour de la semaine où tombe le troisième jour de Pessah, c'est le jour de la semaine où va tomber Rosh Hashanah. Eh bien voilà, donc Rosh Hashanah. Et puis tout va avoir comme ça des liens avec les fêtes. Et quand on va arriver au sixième jour de Pessah, eh bien le Vav va correspondre au P. Mais attention, le P, c'est pas la fête de Pourim de l'année qui arrive, parce qu'il y a des paramètres qui font qu'on peut pas retrouver pendant la fête de Pessah les jours de la semaine où vont tomber va tomber la fête de Pourim qui arrive l'année prochaine. Mais par contre, on a le repère d'une fête qui est déjà passée, c'est-à-dire le jour de Pourim qui était avant Pessah, jour de la semaine. Mais c'est déjà passé quelque part. Et là, eh bien, on va se rendre compte que le jour de la semaine où tombe Pourim, où tombe le sixième jour de Pessah, c'est le même jour de la semaine où tombe l'Agba Omer, le 33e jour du Omer. Et quelque part, dans ce rapport de jour de fête, l'Agba Omer est le premier jour de fête qui va être défini, quel jour de la semaine, des fêtes qui sont annoncées dans la fête de Pessah. Puisque on avait parlé le Aleph avec Tisha B'Av. Tisha B'Av, bah, c'est très loin, heureusement. Et puis après on a vu le Bet, c'est avec Shin. Shin, c'est le prochain, c'est Shavuot, mais c'est quand même dans une vingtaine de jours. Et ainsi de suite. La fête qui arrive le plus tôt, eh bien, c'est l'Agba Omer, dans son lien avec Pourim, dans son lien avec le Vav. Remarquable. Excellente journée.
Le Rav Mevorar Zerbib sur Radio J, 6h39 et 20 secondes dans quelques instants. Pardon, on se préoccupe de votre santé avec le docteur Serge Rafal. Aïe, 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 il va nous parler de l'ail. Bon, l'ail.
Radio J, le 6-9.
Nicolas Rafal.
Bonjour docteur Serge Rafal.
Bonjour Nicolas.
Alors, vous revenez sur ce matin sur les propriétés de l'ail, qu'il soit blanc, noir, car vous le considérez comme un super aliment santé qui devrait par conséquent se trouver encore plus régulièrement sur nos tables et pas seulement le dimanche.
En effet, Nicolas, l'ail est une plante potagère et herbacée originaire d'Asie centrale, de la famille des aliacées bien sûr, mais dont font également partie l'échalote, l'oignon, le poireau. C'est le bulbe composé d'une quinzaine de gousses que nous ingérons pour ses propriétés nutritionnelles et médicinales.
Alors c'est quoi? C'est une des grandes plantes médicinales, l'ail?
Oui, et aussi loin qu'on remonte dans le temps. L'ail est utilisé dès l'Antiquité pour ses vertus nombreuses et variées. Il est distribué aux bâtisseurs des pyramides, réputé leur donner force, courage et résistance. Il est depuis longtemps, pour ne pas dire toujours, préconisé contre les infections. Lors des grandes épidémies de peste, beaucoup se protégeaient non pas d'un masque en papier ou d'un FFP2, mais en s'entourant le cou d'un collier d'ail. Il est historiquement intéressant contre les problèmes respiratoires et à présent surtout conseillé pour ses propriétés protectrices cardiovasculaires, fluidifiant circulatoire, dissolvant des petits caillots. L'OMS reconnaît son usage comme traitement complémentaire des mesures alimentaires visant à diminuer les chiffres des graisses, cholestérol, triglycérides dans le sang. Certaines études avancent qu'il réduirait les cancers de l'estomac et de l'intestin, à confirmer, tout comme son action dans les maladies neurodégénératives où il pourrait améliorer la mémoire. Je reste au conditionnel, faute de preuves indiscutables.
Qu'est-ce qu'on trouve à l'intérieur de l'ail?
Une composition intéressante, Nicolas. Il n'apporte pas de graisse, très peu de sucre, de protéines, de fibres. En revanche, il contient des minéraux, notamment du cuivre, du manganèse, du phosphore, du sélénium, des vitamines, la vitamine B6 dynamisante, de la vitamine C, de nombreux antioxydants, les flavonoïdes, les tocophérols de la vitamine E, les saponines qui lui procurent son effet hypocholestérolémiant. Son efficacité est surtout due à un composé, l'aïline, qui se transforme en allicine lorsqu'il est coupé ou écrasé. Cette substance a des propriétés antibiotiques, anti-inflammatoires, antioxydantes. Elle a un léger inconvénient que nous connaissons tous. Elle parfume désagréablement l'haleine et le corps, puisqu'elle est éliminée non seulement par la respiration, mais aussi par la sueur et l'urine.
À ne pas prendre avant d'aller danser un slow, peut-être. Est-ce qu'il y aurait quelques réserves récentes sur son efficacité, en tout cas médicale, médicinale réelle?
Sur certaines de ses actions, les résultats bénéfiques sur le cholestérol et la tension artérielle sont variables d'une étude à l'autre, sans faire l'unanimité des chercheurs. Et les quantités qu'il serait nécessaire d'ingérer pour obtenir un effet bénéfique sont en réalité difficiles à atteindre en pratique, 1 à 2 gousses d'ail frais par jour. L'ail en poudre posséderait beaucoup moins de vertus que l'ail frais.
Effet indésirable à la consommation d'ail, il y en a?
Outre l'halitose, amusante uniquement chez Fedo, sa consommation excessive peut entraîner des gaz, des brûlures et des douleurs digestives. L'ulcère de l'estomac constitue d'ailleurs une contre-indication classique. Et en raison de son action fluidifiante, mieux vaut éviter d'en ingérer de grandes quantités lors de la prise d'anticoagulants, avant un geste chirurgical ou des soins dentaires qui risquent de nécessiter un arrachage. Pour les mêmes raisons, attention aux associations avec des plantes aux propriétés anticoagulantes, comme le ginkgo biloba, le ginseng, le saule blanc.
Alors vous vouliez nous parler également de l'ail noir, moins utilisé.
Oui, car il est de plus en plus populaire comme condiment ou complément alimentaire, et pas seulement parce qu'il est originaire du Japon, où l'on vit vieux, je vous rappelle, les centenaires d'Okinawa. C'est le même bulbe d'ailleurs que l'ail blanc, mais il a subi quelques transformations chimiques. Il a été mis à sécher plusieurs semaines sous atmosphère contrôlée, avec une température élevée, 60 à 90 degrés, et un fort taux d'humidité de 70 à 90 degrés. Puis il a subi pendant quelques semaines une phase de maturation, une glycation, ce qui est une caramélisation, comme la croûte du pain trop cuit. Ce n'est donc pas une fermentation, comme on l'entend parfois. Et c'est pendant cette phase qu'il prend sa couleur noire, sa texture moelleuse, sa saveur particulière douce et sucrée, et qu'il se concentre en composés phénoliques et organosulfurés qui décuple ses propriétés antioxydantes, anti-inflammatoires et cardioprotectrices. C'est donc un remarquable condiment santé qu'on trouve dans les épiceries fines plutôt qu'en pharmacie ou en parapharmacie.
Et en conclusion, alors, docteur Serge Raphaël, l'ail, c'est bien, c'est bon.
Un proverbe auvergnat dit « oignon le matin, ail le soir font le malheur du médecin ». Peut-être un peu aussi celui de leur compagne ou compagnon, mais assurément la santé des consommateurs ou consommatrices.
Il faut que le médecin ait quelqu'un dans sa vie. Voilà, c'est pour ça. Merci, docteur Serge Raphaël.
Radio J, le 6-9.
Nicolas Raphaël.
Le rappel des titres, 6h45 avec Eva Soto. Bonjour Eva.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. À la une de l'actualité en ce 226e jour de guerre contre le Hamas, l'annonce ce matin de la mort de deux nouveaux soldats israéliens, les sergents Nachman Meir Haïm Vaknin, 20 ans d'Elat, et Noam Bitan, 20 ans également de Yad Rambam. Par ailleurs, quatre corps d'otages récupérés dans la bande de Gaza vendredi dans une opération spéciale de l'armée et du Shin Bet. L'identité du quatrième a été révélée hier par Tsahal. C'est Ron Benjamin, 53 ans, enlevé et tué par le Hamas au matin du 7 octobre près de Melfassim. Sans plan de Binyamin Netanyahou pour l'après-guerre à Gaza avant le 8 juin, Benny Gantz quittera la coalition. C'est ce qu'il a annoncé hier soir dans une allocution qui était très attendue. Sur le terrain, à la frontière sud, les alertes à la roquette ont retenti pour la seconde fois dans la soirée. Et à la frontière nord, des avions de combat ont frappé un bâtiment du Hezbollah au Liban. Enfin, en France, le ministre de l'Intérieur sera demain à Rouen pour décorer le policier qui a tiré sur l'auteur de l'attaque antisémite de la synagogue de la ville.
Merci Eva pour ce rappel des titres. 6h46, on vous parle de Rouen tout de suite.
Radio J.
Le 6-9.
Nicolas Raffal. Radio J.
On vous parle de Rouen, la synagogue qui a été incendiée avant-hier. Le terroriste tué alors qu'il fonçait sur les policiers, un Algérien sous le coup d'une OQTF qui venait de mettre le feu au lieu de culte. Petit point alors donc sur l'histoire de cette synagogue rouennaise et de cette communauté juive à Rouen dans ce qu'on appelait alors le clos juif. S'épanouissait, là où nous sommes au Moyen-Âge, une vie intellectuelle intense autour de l'école talmudique et de la synagogue. Le clos en question ne fut jamais, comme son nom ne l'indique pas, un lieu fermé. Des juifs qui vivaient ailleurs dans la ville et des chrétiens habitaient cette enceinte. Tout a disparu en 1306 avec l'expulsion de cette communauté. Alors là, on peut ellipse comme au cinéma, on est en plein festival de Cannes. Là, on se retrouve en 1976, 8 siècles plus tard. Des travaux sont effectués pour le repavage de la cour du palais de justice et ils ont mis ces travaux au jour. Un site archéologique stupéfiant, les murs d'une bâtisse juive du 11e siècle se révélant le plus ancien monument juif d'Europe occidentale. Ce bâtiment roman date de 1100 environ. Il s'agit de la salle basse d'une ancienne école rabbinique, une yeshiva qui a été arasée pour la construction de l'échiquier de Normandie. C'est le palais de justice actuel. Cette maison a été sublime, on le sait, puisque malhabilement tracée sur la pierre, on retrouve par trois fois une phrase extraite des paroles divines adressées au roi Salomon. Des mots gravés sans doute à la hâte par un habitant au moment de l'expulsion, 1306. Au bas de deux colonnettes, un dragon et en regard, un fauve de pierre étrangement placé à l'envers. Deux corps pour une tête qui serait une évocation du psaume 91. Tu fouleras le lionceau et le serpent. Une synagogue rouennaise existait depuis au moins le XVIe siècle, mais elle fut détruite. La synagogue moderne qui se trouve rue des Bons Enfants, qui a été gravement attaquée et incendiée vendredi, elle a été construite en 1950 par l'architecte François R, H-E-2-R. Elle est construite à l'emplacement de l'ancienne et fait l'angle de la rue des Bons Enfants et de l'ancienne prison. La façade principale est constituée d'un bâtiment principal auquel est accolé un grand porche d'entrée composé d'une avancée percée d'une baie dont les remplages forment une étoile de David. Et sachez que les vitraux forment des motifs sur le thème de l'étoile de David et des 10 commandements et sont signés d'un des plus grands créateurs de vitraux de l'époque, Gabriel Loire. Voilà pour la synagogue. Une communauté juive s'installe dans la région rouennaise au moment de la colonisation romaine. Ça s'appelle le Rotomagus. Rouen s'appelle Rotomagus à l'époque. Cette installation est encouragée par le pouvoir romain qui veut conforter la conquête militaire de la Gaule par une implantation démographique. La présence à Rouen de cette communauté juive se maintient de manière continue pendant un millénaire malgré plusieurs massacres et jusqu'à l'expulsion des juifs de France ordonnée donc en 1306 par Philippe le Bel, où plus de 5000 juifs rouennais sont chassés de la ville. Vers le milieu du 19e, la communauté compte environ 300 membres. Dès les débuts de l'occupation, la situation des juifs s'aggrave à Rouen, arrestation, déportation en 1940. Deux facteurs expliquent la cruauté et l'efficacité de la persécution. Les Allemands considèrent la région proche des côtes de la Manche comme stratégique. La communauté actuelle, composée en majorité de juifs séfarades venus d'Afrique du Nord, compte environ 250 familles, 700 personnes. environ du côté de la population de la communauté juive rouennaise. Il est 6h50, on retrouve dans quelques instants un jour une mitzvah, Raïm Nissenbaum.
Le 6-9,
Nicolas Raphaël.
Bonjour, cher Raïm Nissenbaum.
Bonjour à tous, nous parlions récemment dans ce même cadre du Talit, ce châle qui nous enveloppe pour la prière chaque matin. Bien entendu, il n'a pas de sens s'il ne comporte pas à ses coins un tzitzit, une frange de fil blanc nouée d'une façon précise et dont le nombre de tours et de nœuds a de nombreuses significations. Ces tzitzit portent un autre nom en hébreu. On les appelle aussi gedilim ou au singulier gedil. Le mot gedil s'apparente étymologiquement au mot gidoul, croissance. Qu'est-ce que cela veut dire? Justement, nous allons y réfléchir. Gedil, donc, s'apparente, on l'a dit, à croissance. Quel rapport y a-t-il entre des tzitzit et l'idée de croissance? C'est qu'ici nous retrouvons un vieux thème de l'éducation juive. Lequel? Eh bien, c'est l'habitude que l'on met très jeune à l'enfant un talit katan, le petit vêtement aux quatre coins pourvu de tzitzit et que l'on porte constamment sous sa chemise. On observe que cette coutume répandue dans tout le peuple juif distingue ce commandement des autres. En effet, on commence l'éducation dans la pratique des mitzvot en général plus tard, alors qu'auparavant on a déjà mis un talit katan à l'enfant. Ce commandement prend pour lui un sens plus précis, plus concret, et lui devient comme plus proche. L'enfant grandit au rythme de sa croissance. La mitzvah du talit katan grandit avec lui. Elle prend plus de sens, il la ressent comme plus précieuse progressivement. C'est là aussi le rythme de sa croissance. Finalement, dans ce mot employé, certainement pas par hasard, Guédil, nous retrouvons une pédagogie véritable, que la mitzvah a besoin de mûrir en l'enfant pour qu'il la conserve une fois grandi. Bonne journée à tous.
Bonne journée, 6h52, on parle du Philharmonique d'Israël, tout de suite sur Radio J.
Radio J, le 6-9.
Nicolas Raphaël. Radio J.
6h52, en cette fin de semaine de célébration de l'anniversaire de la création de l'État d'Israël, 14 mai 1948, on revient, puisqu'il paraît, Eva, que la musique adoucit les mœurs, sur l'incroyable histoire de la création de l'Orchestre Philharmonique d'Israël, un des plus merveilleux orchestres au monde. Toujours complet, hein, quasiment, si on veut aller assister à une des représentations données par le Philharmonique. Et je vous propose, avant que d'en parler, de nous laisser accompagner par quelques notes de ce chef-d'œuvre qu'est la symphonie de Brahms, la numéro 2. Aimez-vous Brahms? Demandait Françoise Sagan. Zubin Mehta, qui a été le plus longtemps le chef d'orchestre du Philharmonique, ici, dans cette symphonie numéro 2 en ré majeur, opus 73.
L'orchestre a été fondé en 1936 par le violoniste juif d'origine polonaise, Bronislav Huberman, sous le nom d'Orchestre de Palestine, alors que beaucoup de musiciens juifs étaient progressivement expulsés des orchestres européens en Allemagne, en Autriche, en France, sous la pression de l'idéologie nazie, entre autres. Son concert inaugural a eu lieu à Tel Aviv le 26 décembre 1936, avec Arturo Toscani au pupitre de chef d'orchestre. Il a été rebaptisé Orchestre Philharmonique d'Israël depuis la création de l'État en 1948. L'orchestre a ainsi accueilli au cours de son existence les plus grands noms de la direction d'orchestre. Deux restent cependant fréquemment associés avec l'Orchestre Philharmonique d'Israël. Ce sont ceux de Leonard Bernstein et de Zubin Mehta que nous venons d'écouter dans cet extrait. Le premier, Bernstein, a été un invité régulier de l'orchestre dès 1947, nommé chef d'orchestre d'honneur en 1967. Zubin Mehta a été quant à lui le conseiller musical de l'orchestre de 1968 à 1977, avant d'en être depuis 1977 le directeur musical jusqu'à la fin de sa vie en 1981. De 1936 à 1968, l'orchestre n'a pas eu de directeur musical, restant uniquement dirigé par des chefs invités.
Vous êtes dur avec Zubin Mehta, c'était depuis 80, il est pas mort en 1980, il est mort il y a quelques années seulement. Depuis sa création, l'histoire de l'Orchestre Philharmonique d'Israël est difficilement et va dissociable de celle d'Israël. L'orchestre s'est produit lors de maints événements marquants de l'État hébreu. Ainsi, par exemple, en 1947, quelques jours seulement après la prise de contrôle de la ville de Beersheba par les forces de défense israéliennes. L'orchestre conduit par le jeune Bernstein se produit dans cette ville du Negev devant 5000 soldats. 20 ans plus tard, c'est une mémorable symphonie numéro 2, pas celle de Brahms, dont nous venons d'entendre un extrait, mais résurrection de malheur que donne l'orchestre au mont Scopus, quelques jours après la prise de contrôle de Jérusalem-Est par les forces de défense d'Israël. Dans cet épisode de la guerre des six jours, bien évidemment, on écoutera, puisque je vous sens impatiente, Eva, un bout de cette symphonie numéro 2 de malheur dans quelques instants, c'est promis.
De nos jours, l'Orchestre Philharmonique d'Israël se compose de 110 musiciens, dont plus de la moitié sont nés en Israël. Les autres sont majoritairement originaires des pays d'Europe de l'Est, de Russie et des États-Unis. Ils se produisent dans les plus grandes villes de l'État hébreu, donnant près de 200 concerts par an. Parmi les nombreuses missions que s'est donné l'orchestre, celle de promouvoir et d'aider de jeunes talentueux musiciens est particulièrement prise à cœur. L'Orchestre Philharmonique d'Israël soutient ainsi financièrement le jeune Orchestre Philharmonique d'Israël et organise chaque année des concerts où certains jeunes musiciens sont invités à se produire avec leurs aînés. Son statut est celui d'une coopérative indépendante, c'est-à-dire que les musiciens de l'orchestre en sont les propriétaires et les gérants.
Et depuis 1992, les compositeurs les plus fréquemment joués par l'orchestre sont Beethoven, Mozart, Brahms, Tchaïkovski et Mendelssohn. Richard Wagner n'est jamais programmé, la musique du compositeur allemand tabou en Israël, pour les raisons que vous imaginez. Il faudra attendre 1971 pour que l'orchestre accepte de jouer en Allemagne. À l'occasion d'une tournée dans les pays européens de l'Est à la fin des années 80, l'orchestre s'est également rendu à Auschwitz.
Aujourd'hui, c'est donc le maestro Lahav Shani qui dirige l'orchestre. L'ouverture de la 87e saison de l'Orchestre Philharmonique d'Israël a été retardée en raison de la guerre à Gaza, mais l'orchestre s'est rapidement réorienté, jouant en trio et en quatuor pour les familles évacuées des communautés frontalières de Gaza et des villes du Nord, ainsi que pour les blessés, les personnes hospitalisées. À certains moments, ils ont même posé leurs instruments pour aller cueillir des avocats et des tomates pour les agriculteurs en manque de personnel. Lors d'une représentation émouvante, le corniste Hagai Shalom a joué les obsédants de Osei Shalom, la prière familiale pour l'unité, dans l'auditorium Charles Bronfman de Tel Aviv, vide et sombre. Shani a fait remarquer que la philharmonie a été témoin de toutes les guerres en Israël et qu'il semble impossible de contenir autant de détresse et d'angoisse à côté de l'espoir et de l'aspiration à la vie.
C'est dans ces moments-là que la musique a une force incroyable, a déclaré Shani, le chef d'orchestre. La musique qui peut contenir et refléter tous les sentiments différents. Côte à côte, a-t-il ajouté, faisant référence à la formidable complexité émotionnelle de l'héroïque, par exemple, de Beethoven. Chez Beethoven, il y a de la place pour la lamentation, le chagrin et la perte, je cite Shani, mais également pour l'espoir, l'héroïsme, la force intérieure et la force morale. Son message est celui de la fraternité et de la solidarité, et la solidarité est la source de notre force. Alors, chose promise, chose due, il avait été génial dans ce rôle, dans la série sur Netflix, le film sur Netflix, Maestro. Eh bien, je vous propose de découvrir Bernstein dans la symphonie numéro 2 de Gustav Mahler. Nous sommes le 14 mai 1948, la symphonie Résurrection, quelques notes.
Radio J à Paris sur 94.8 en DAB+ et sur notre appli Radio J.
Radio J.
Comme beaucoup, vous pensez que votre avenir et celui de vos enfants se jouent en Israël? Préparons ensemble votre Alia.
L'Agence juive vous invite au salon de l'Alia pour vous aider à transformer votre rêve en réalité.
Éducation, logement, santé, fiscalité, emploi.
Des spécialistes vous accompagnent pour construire les étapes de votre projet d'Alia pas à pas.